Chapitre 25. Le lavabo était presque plein. Les mains plongées jusqu'aux poignets dans l'eau tiède et savonneuse, Myriam fit soudain l'expérience d'un flashback si vif et net qu'elle sursauta. Ce n'était pas une vision, mais une sensation. La chaleur surprenante du sang jaillissant d'une artère sectionnée et bouillonnant entre ses doigts, et juste après, le choc de la déception. Du chagrin. Impossible de revenir en arrière à présent. Elle resta debout devant son lavabo, dans sa minuscule salle de bain, les bras dans l'eau, incapable de remuer pendant une minute, peut-être même deux. Dans la main droite, elle tenait une brosse à ongles et dans la gauche, une paire de ciseaux qu'elle serrait, presque tétanisée. L'effet passa. Ses doigts se détendirent et elle reprit ses esprits. Elle retira le bouchon et regarda le liquide disparaître dans la bonde, puis elle reposa la brosse et les ciseaux sur l'étagère fixée sous le miroir. Avec précaution, elle versa de la lotion antiseptique sur un morceau de coton et tapota les égratignures sur son cou et ses bras. Enfin, elle attrapa les pansements qu'elle avait découpés dans un rouleau et les appliqua sur les plaies les plus larges, sur le côté de l'avant-bras gauche. Après cela, Myriam retourna dans la pièce principale de sa cabine et commença à remettre de l'ordre. Elle ramassa les livres tombés de l'étagère, reposa la boîte à sa place. Armée d'une pelle et d'une balayette, elle nettoya les morceaux de céramique et la terre renversée. Un dépôt sur le rebord de la fenêtre avait basculé et le plan d'estragon qu'il contenait ne s'en remettrait pas. À quatre pattes, le dos ankylosé, les genoux en feu, Myriam s'affairait à faire disparaître la moindre trace de sa confrontation avec cette affreuse garce. Elle était en colère, mais une colère frémissante, qu'elle parvint à maîtriser jusqu'à ce qu'elle découvre sous la table une des créoles dorées de Lorraine, un peu tordue. Là, elle se mit à sangloter. Pourquoi les gens s'emparaient-ils toujours de ce qui ne leur appartenait pas ? Pourquoi détruisaient-ils toujours ce qu'elle possédait ? Ce qui avait le plus marqué Myriam au cours des jours qui avaient suivi son enlèvement, ce n'était pas l'hôpital, ni sa mère, qui pleurait si fort quand elle était entrée dans sa chambre la première fois que son père devait la soutenir pour qu'elle avance. Ni même les longues heures d'interrogatoire avec la police, la foule de gens postés devant chez eux à leur retour, les journalistes et les caméras de télévision. Non, ce dont elle se souvenait le plus clairement, c'était l'intolérable gentillesse dont avaient fait preuve les parents de Lorraine. Quand il vint la voir à l'hôpital, le père de Lorraine lui prit la main et murmura « Dieu merci, toi tu n'as rien. » « Mais enfin, songea Myriam, il ne peut tout de même pas sincèrement penser cela. Il doit forcément se dire « Pourquoi pas toi ? Pourquoi ma fille et pas toi ?» Après l'enterrement de Lorraine, ses parents organisèrent une veillée chez eux. Myriam demanda si elle pouvait monter passer un peu de temps dans la chambre de Lorraine, et la mère de son amie, cette femme menue et brisée, avait réussi à lui sourire. « Bien sûr, vas-y, tu seras toujours la bienvenue, ici. Viens nous voir quand tu veux. » À l'étage, assise à la coiffeuse de Lorraine, Myriam examina ses chouchous aux couleurs vives, ses rouges à lèvres écarlates et roses foncées, sa palette de fards à paupières violets, bleus et blancs. Il y avait une boîte à bijoux devant le miroir qui jouait Green Sleeves quand on l'ouvrait. Depuis qu'elles étaient petites, Myriam l'avait toujours admirée. À l'intérieur se trouvaient des colliers, des bracelets, une bague trop petite pour les doigts de Myriam et des boucles d'oreilles. Les créoles en or qu'elle glissa dans la poche de sa veste. Elle partit sans dire au revoir. Trois jours plus tard, on retrouva la voiture de Jeremy sur un parking au sommet d'une falaise, à un point de vue, un de ces endroits magnifiques où se rendent ceux qui n'ont plus nulle part où aller. Trois jours après ça, en raison d'une météo épouvantable, les gardes-côtes abandonnèrent les recherches. Et encore trois semaines après ça, deux enfants qui jouaient sur une plage près de Hastings trouvèrent dans le sable un pied humain. La taille correspondait, la couleur de la peau correspondait, le groupe sanguin correspondait. Qu'il ait été fracassé contre les rochers ou avalé par l'hélice d'un bateau, Jeremy avait bien disparu. Ne restait plus de lui qu'un bout de papier qu'il avait laissé dans la boîte à gants de son véhicule abandonné, des excuses, un simple mot, Désolée. Désolée. Au lycée, tout le monde était désolé pour Myriam. Tout le monde était désolé et personne ne voulait s'approcher d'elle. Tout le monde l'observait à la dérobée, mais personne ne voulait croiser son regard. Son nom était sur toutes les lèvres, mais personne ne lui adressait la parole à la récréation ou au déjeuner. Quand elle marchait dans les couloirs, on lui souriait gentiment, même les professeurs, tout en fixant un point situé devant elle, dans le vague. Elle était devenue comme contagieuse. Ses parents, sa psychologue, la police, tous lui répétaient que ce qui était arrivé à Lorraine n'était pas sa faute. Personne ne peut te reprocher d'avoir agi comme tu l'as fait. Mais le fait qu'ils éprouvent tous le besoin de le lui dire était une condamnation en soi. Cela démontrait qu'ils y avaient pensé, qu'ils avaient songé « Tu aurais pu agir différemment. Personne ne peut te reprocher d'avoir agi comme tu l'as fait, mais tu aurais pu faire autrement. » Personne ne l'avait jamais formulé devant elle. Personne avant Théo Meyerson.